Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
La Bible est source d'espérance et elle nous enseigne la sagesse. Mais que nous apprend-elle au sujet du mariage? Et quelles devraient être dans ce cadre-là les relations entre les hommes et les femmes?
Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le mariage.
Nous parlons donc du mariage avec Arnaud et Antoine. Nous cherchons à comprendre ce que la Bible dit à ce sujet et quelles sont les leçons à en tirer pour aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Yann.
Bonjour à tous.
La dernière fois, nous nous sommes penchés sur un texte biblique qui parle du mariage et qui exhorte les maris à aimer leurs femmes et les femmes à se soumettre à leur mari. Nous avons alors réfléchi sur la question de la soumission des femmes envers le mari. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'amour que les hommes devraient montrer envers leurs femmes. Mais nous allons tout d'abord lire le texte de la Bible, trouvé dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 21 à 30.
« Parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. » Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même, la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifié par l'eau et par la parole. Il a ainsi voulu se présenter, cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ fait pour son Église. Que chaque mari aime donc sa femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari.
Nous constatons d'abord que le mari est le chef de sa femme. Cela signifie que la responsabilité en vue du bien de la famille lui incombe.
Cependant, nous ne devons pas oublier que même si la responsabilité de la famille incombe aux hommes, le péché est entré dans leur vie et par conséquent, ils peuvent mal assumer et parfois pas du tout les tâches que Dieu leur a confiées.
Pouvez-vous nous donner des exemples?
Oui, en tant que chef de famille, un homme devrait bien s'occuper de sa femme et de ses enfants. Il devrait prendre soin d'eux, s'assurer de leur bien-être et épanouissement. Toutefois, trop souvent, les maris dominent leurs femmes de façon autoritaire et tyrannique. Parfois, ils les traitent un peu comme des esclaves et attendent d'elles qu'elles fassent tout. Tous ces comportements sont égoïstes et sont le résultat du péché qui consiste à changer le bien en mal.
Que voulez-vous dire par « le péché consiste à changer le bien en mal » ?
Dieu nous a donné par exemple des mains avec lesquelles nous pouvons accomplir beaucoup de bonnes choses. Nous pouvons nous en servir pour nous nourrir, pour construire des maisons, façonner de beaux objets. Toutefois, nous pouvons également nous en servir pour accomplir le mal, pour frapper des personnes, pour voler ou détruire. Il en est de même pour la langue. Nous pouvons dire des choses qui font du bien, mais également nous pouvons mentir ou calomnier. Dans tous ces cas, nous destinons une bonne chose que Dieu a créée à un mauvais usage. Cela est changer le bien en mal et c'est un péché. Or, au sein de la famille, Dieu a accordé des responsabilités à l'homme et il lui a donné en même temps les capacités pour accomplir ses tâches. Dieu a institué cela pour le bien des familles qui ont besoin pour s'épanouir d'un environnement rassurant. Mais certains hommes abusent de leur position et ils deviennent pour leurs femmes et leurs enfants une réelle source de souffrance.
Et c'est justement parce que certains maris ont tendance à abuser de leur position que l'apôtre Paul trouve nécessaire de leur adresser cette exhortation « Marie, que chacun de vous aime sa femme ». Et il répète cette exhortation plusieurs fois, soulignant ainsi son importance.
Et comment un mari doit-il aimer sa femme ?
Le texte nous donne deux exemples à suivre. Dans le premier, l'exhortation nous est donnée de nous occuper de notre femme tout aussi naturellement que nous nous occupons de notre propre personne. Il est tellement facile de penser à ses propres intérêts et besoins. Mais au sein d'un mariage, le bien-être et l'épanouissement de notre femme ou de notre mari doit occuper autant de place dans nos pensées que nos propres projets.
Et quelle est la deuxième exhortation ?
L'amour de Jésus-Christ nous est rappelé. L'amour de Jésus-Christ pour l'Église doit servir de modèle. Le mari, à son exemple, doit aimer sa femme. Paul nous rappelle que Christ est la tête, le chef de l'Église, mais rappelons-le, Christ est un chef qui gouverne et dirige l'Église avec compassion et générosité. Il a les intérêts de l'Église à cœur, il prend soin d'elle. Donc Christ est un modèle de ce que doit être un bon chef de famille.
Et nous pouvons nous inspirer de toutes les qualités de l'amour de Christ. Comme il demeure fidèle et constant dans son amour envers nous, nous devons, avec son aide, demeurer fidèles et constants dans notre amour envers notre conjoint. Comme il est disposé à pardonner nos fautes, de la même manière nous devons être prêts à pardonner les fautes de notre femme ou de notre mari. Il est vrai que dans une vie de couple, nous rencontrerons des désaccords ou des tensions. Nous pouvons être contrariés par des paroles ou par le comportement de notre femme ou de notre mari. Mais nous devons apprendre à bien gérer ces moments difficiles et veiller à ne pas laisser grandir des sentiments de regret, d'amertume ou même de haine. Réagir ainsi ne ferait qu'aggraver les problèmes de couple. Par contre, si nous prenons pour exemple l'amour de Christ, nous vivrons les moments de tension sereinement, confiants que Jésus va nous aider à pardonner et à aimer notre conjoint, quoi qu'il advienne.
Pouvez-vous définir le pardon ?
Quand Jésus dit qu'il nous pardonne, cela signifie qu'il agit envers nous comme si nous ne l'avions jamais offensé. Alors, comment réagir lorsque votre mari ou votre femme vous blesse ? Il serait tellement facile d'aggraver la tournure des choses en entrant dans un cercle vicieux de conflits. Par contre, si nous pardonnons à notre conjoint, si nous continuons à être attentifs, aimants et patients envers lui, nous choisissons d'agir comme s'il n'avait jamais péché. Toutefois, pour que le pardon soit pleinement accordé, il faut que la personne fautive admette ses torts et désire changer de comportement.
Lors des deux dernières émissions, nous avons appris que le mari doit aimer sa femme et qu'en retour, la femme doit se soumettre à son mari. Mais nous ne le nions pas. Des difficultés peuvent survenir dans les couples, les mettant en danger. Nous avons donné quelques conseils sur la façon de gérer ces problèmes en s'inspirant de l'amour de Jésus-Christ. Cela implique de bon vouloir de chacun. Mais que se passe-t-il quand l'un des deux ne veut pas coopérer ? Nous en parlerons la prochaine fois. Dans un instant, Jean-Marc va poursuivre ses méditations sur Christ et son amour pour nous. Mais d'abord, Hélène va lire dans Éphésiens chapitre 3, les versets 17 à 19.
Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu.
Jetant un regard sur l'amour de Jésus-Christ, nous parlons de la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de cet amour. Pourquoi ? Parce que plus nous comprendrons l'amour de Christ dans toutes ses dimensions, plus nous tiendrons fermes et forts dans la vie, avec son lot de difficultés et d'épreuves. C'est en saisissant la pleine signification de l'amour de Christ que nous deviendrons comme des arbres bien enracinés qui résistent aux tempêtes ou aux ardeurs de la sécheresse. Nous deviendrons également comme des maisons construites sur de bonnes fondations qui demeure solide et reste debout, même secoué par le pire des tremblements de terre. La dernière fois, nous avons médité sur la largeur de l'amour de Christ, qui ouvre large ses bras pour accueillir toutes sortes de personnes, quelle que soit leur origine ou leur situation. Aujourd'hui, je passe à la longueur de l'amour de Christ. Cela évoque pour moi la longueur du temps pendant lequel Christ aime les siens, et nous pouvons dire que Christ les aime depuis si longtemps que l'on peut parler d'un amour éternel. Christ nous aime depuis l'éternité, car il existait déjà avant toute création. Connaissant d'avance la situation désespérée dans laquelle tomberait l'humanité, Christ, par amour, a conçu avec son Père un plan de salut. Dans ce plan, Christ accepta de subir le châtiment de nos fautes et d'obtenir notre pardon auprès de Dieu au prix de sa mort sur la croix. Christ aime les siens depuis l'éternité et les aimera pour l'éternité. Par amour, il nous gardera jusqu'au jour où il nous recevra dans la vie éternelle, et là nous ne passerons pas un instant sans être conscients de la plénitude de son amour pour nous. Quant au présent, aujourd'hui et tous les jours, nous avons cette assurance que Christ nous aime d'un amour fidèle et constant. Il ne nous abandonnera jamais. Quelle assurance ! Dans cette vie, nous pouvons malheureusement être déçus par l'amour ou le manque d'amour de nos proches et de nos amis. Nous nous aimons les uns les autres si imparfaitement. Les personnes qui nous aiment peuvent nous blesser, volontairement ou non. Nous pouvons être rejetés et même abandonnés par un parent, un enfant, par un mari, un ami. Ces expériences nous plongent dans le désespoir. Ainsi meurtris, nous pouvons avoir du mal à faire confiance aux autres et à tenter de lier d'autres relations épanouissantes. L'amour humain que nous donnons et que nous recevons n'est pas forcément fidèle ou constant. Seul l'amour de Christ est parfaitement fidèle et constant. L'amour humain change selon les humeurs et les circonstances, un jour chaud, un jour tiède. L'amour de Christ ne change pas. Nous pouvons tous les jours compter sur lui, nous appuyer sur lui, sans hésitation. Nous pouvons nous approcher de Christ tous les jours, sans craindre le rejet, le mépris ou la froideur. Christ aime les siens tout au long de leur vie et au-delà. Il est absolument digne de confiance.
Tout comme l'apôtre Paul, notre désir le plus profond est que chacun d'entre vous puisse connaître Jésus-Christ et toute la plénitude de son amour. Pour en savoir plus, écoutez notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, je vous dis au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.